بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الخير كله في التفقه في الدين. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الغزار ونعمه التي لا تحصى ولا تعد، ومن نعمه جل وعلا أن وفقنا لمثل هذه المجالس المباركة لكي نتفقه في أمور ديننا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نواصل بإذن الله تعالى الكلام في أحكام الصلاة عامة وفي شروطها خاصة. وبادئ بدء، أود بارك الله فيكم أن أنصح نفسي وإخواني بأمر مهم يتعلق بصلاة الجماعة. فصلاة الجماعة لها أحكام كذلك، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومن تمام النصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن بين هؤلاء عامة الناس. فلقد لاحظت بارك الله فيكم عدم متابعة الإمام، وقلت وكنت ذكرت لكم أن للمأموم حالات مع إمامه، للمأموم حالات أربع مع إمامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا قبل تكبيره، إلى آخر الحديث. فالواجب على المأموم متابعة إمامه، والمشروع والأصل المتابعة. وقلنا للمأموم أربع حالات مع إمامه: المتابعة، وهذه هي الأصل المشروعة المطلوبة. الثانية الموافقة، أن يوافق المأموم إمامه في أفعال وأقوال الصلاة. وهذه حتى الموافقة كررها أهل العلم، فما بالكم بغيرها. الحالة الثالثة أن يتأخر المأموم على إمامه. والحالة الرابعة، وهذه محرمة تبطل الصلاة، وهي أن يسابح المأموم إمامه. والذي لاحظته في هذا المسجد، أغلبية الإخوة يوافقون الإمام، يوافقون الإمام. مثال: في ركوع الإمام مثلا، الأصل متابعة الإمام. كيف تكون المتابعة؟ تكون المتابعة بانقطاع صوت الإمام حتى يستوي الإمام راكعا فنركع نحن، ليس مجرد شروع الإمام في الانحناء فنركع معه. هذه موافقة، وحتى هذه كرهها أهل العلم، فما بالكم يعني المسابقة والتأخير. الرفع من الركوع كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: ولا تركعوا حتى يركع، وفي رواية: فلا تركعوا حتى يركع. كذلك الرفع من الركوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولا تحصل هذه المتابعة إلا إذا انقطع صوت الإمام حتى ينتهي من قولي سمع الله لمن حمده. فنحن الخطأ الذي يرتكب في هذا المسجد وفي أغلبية المساجد أننا نوافق الإمام، يعني عندما نسمع مجرد سمع فالإخوة كلهم ربنا ولك الحمد، وهذا خطأ. كذلك السجود، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا، يعني الصحابة، كنا لا نحني ظهورنا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يسجد الصحابة رضي الله عنهم. نحن نتابع حركات الإمام، نتابع حركات الإمام، فعند شروعه في السجود نسجد معه وربما نسابق الإمام، وهذا خطأ فادح. نراجع هذا، قلنا أن للمأموم أربع حالات مع إمامه. الحالة الأولى المتابعة، وهذه هي المطلوبة المشروعة، أن تكون أفعالك وأقوالك تبعا لأفعال وأقوال إمامك في الصلاة. لا نكبر حتى يكبر الإمام، لا نركع حتى يركع الإمام ويستوي راكعا، ولا نرفع من الركوع حتى ينقطع صوته بسمع الله لمن حمده ثم نقول ربنا ولك الحمد، ولا نسجد حتى يسجد الإمام ويضع جبهته على الأرض. هذه هي السنة. والحالة الثانية الموافقة. ما معنى الموافقة؟ أنك توافق الإمام في جميع حركات وأقوال الصلاة، وهذه نهى، يعني مكروهة عند أهل العلم. والحالة الثالثة أن يتأخر المأموم عن إمامه. كثيرا من الإخوة يرفع الإمام من السجود ولكن هو مازال ساجد، ظنا منه أنه زيادة في الخير، ومتابعة الإمام واجبة، فالأصل متابعة الإمام. والمحرمة التي لا تجب، وهي أن تسابق الإمام، وهذه تبطل الصلاة، فلا يجوز لك أن تسابق الإمام. كذلك في مسألة التأمين، والله يفوتنا خير كثير يا إخواني في مسألة التأمين هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم: فإذا قال آمين فقولوا آمين. نحن بمجرد الانتهاء من القراءة للإمام نشرع في التأمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث العظيم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ولم يقل تأمين الإمام، جزاؤه إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا بارك الله فيكم نفوت هذا الأجر العظيم؟ من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال آمين فقولوا آمين. Donc je disais, chers frères, avant de commencer, Inch'Allah, on est toujours à parler des règles de la prière en général. On est toujours dans les conditions de la prière. On va les suivre, Inch'Allah. Mais avant de poursuivre, j'aurais aimé faire une remarque à ma personne et à mes frères concernant le fait de suivre l'imam dans la salat. J'ai remarqué qu'il y a des erreurs qui sont commises, que ce soit dans cette mosquée ou dans notre mosquée ou dans la plupart des mosquées. C'est que ceux qui suivent, ceux qui prient derrière l'imam, commettent certaines erreurs par rapport aux actes et aux paroles de la prière. Donc on a cité des exemples. Makanan fit takbir. Et pourtant, dans le hadith qu'on a cité auparavant, le hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim sur l'Abu Hurayra radiyallahu anhu, le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'imam, il est là, il dirige la prière pour le suivre, pour le prendre pour exemple. Et quand il fait le takbir, faites le takbir. Donc il a dit, quand il fait le takbir, donc vous faites le takbir derrière lui. Et quand il s'incline, vous inclinez. Et quand il se prosterne, prosternez-vous. Et quand il dit Samia Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Maintenant, il y a quatre cas concernant celui qui prie derrière l'imam par rapport à son imam. Le premier cas, c'est le fait d'assurer cette successivité, que tous tes actes et toutes tes paroles suivent les actes et les paroles de l'imam. Et ce qui est recommandé, ce qui est légiféré. Deuxième cas, c'est le fait d'être en phase avec son imam. Et quand il dit, quand il va s'incliner, il s'incline avec lui. Et quand il se prosterne avec lui immédiatement. Ça, c'est quelque chose que les savants ont détesté. Le fait d'être en phase avec l'imam. Et un troisième cas, c'est le fait de faire les choses en retard par rapport à son imam. On a cité l'exemple de la prosternation, par exemple. L'imam, il s'est déjà relevé de la prosternation, que nous, on est toujours en prosternation. Croyons qu'on va rajouter quelque chose de l'année du bien. Mais le bien, c'est le fait de, justement, de suivre son imam. Et puisqu'il est interdit, ce qui est blâmable, qui peut provoquer l'invalidité de la prière, c'est le fait de devancer l'imam. Le fait de faire des choses avant l'imam. Par exemple, de faire l'inclinaison avant l'imam. C'est pour ça que il faut prendre garde, les frères, de devancer l'imam. Ne pas suivre la gestuelle de l'imam. On a tendance à guetter les gestes de l'imam. Dès qu'il fait le geste, on est au départ. Donc, faites attention, barakallahu fikoum, à cela. On continue, inshallah, notre cours concernant les conditions de la prière. On est arrivé à la cinquième condition, je crois. أليس كذلك الشرط الخامس أنتم معي الشرط الخامس من يذكرون بالشروط الأربعة كي parmi vous بارك الله فيكم nous pourra nous faire un rappel des quatre conditions qu'on a étudiées ensemble. Personne? Un courageux. الشروط الأربعة. Ça, c'est des choses à apprendre par cœur, les frères. Par cœur. Il faut les apprendre vous-même et les apprendre à vos épouses, à vos enfants, à des gens qui vous entourent. Et c'est ça qui conditionne la validité de vos prières, les frères. هذه الشروط بهذه تصح صلاتكم. Maintenant, si on ne sait pas, si on ne maîtrise pas des conditions qui valide nos prières et des choses qui invalident nos prières, il y a un problème. Dakarna arba shurut. Shart al-awwal. On lève la main, les frères. Celui qui veut répondre, il lève la main. Allez, frères, on avance. Shart al-awwal. Tafadal. Mazal madrasnash. C'est une condition. Mais nous, on a étudié ensemble quatre conditions. On les a étudiées de tartu. Man. Avant l'aql. Ahsan, l'islam. Première condition, l'islam. L'islam. Première condition. Zid. Al-aql. La raison. Troisième. On appelle ça tamyiz, le discernement. Le tamyiz. Rabashi. Tu l'as dit. Nia, on va le faire après. On a appelé ça comment? Comment on l'a appelé? Hein? Oui, 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 je sais. Mais comment on l'a appelé? Rafa'u al-hadath. Rafa'u al-hadath. Ici, c'est la purification, tahar, là. Donc, on a étudié quatre conditions. Islam, aql, tamyiz, rafa'u al-hadath. Aujourd'hui, inshallah, on va entamer la cinquième condition. Hiya izalatun najasa. Izalat al-najasa. الوجه الأول مما يجب إزالة النجاسة. يجب إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. يجب إزالة النجاسة من البدن من الثوب ومن البقعة أو المكان. من البدن ذكرنا شيئا منها في الدرس الماضي لما تكلمنا عن شروط وأركان الوضوء ونواقض الوضوء، وذكرنا يعني أحاديث متعلقة بالاستنجاء والاستجمار وغسل المذي، وهي تدل على وجوب غسل النجاسة من البدن، تدل على وجوب غسل النجاسة من البدن. الأدلة من إزالة النجاسة من الثوب، من الثوب. أول حديث نستدل به حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إحدانا يصيب ثوبها أو ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ وهكذا كان شأن الصحابيات رضي الله عنهن، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن الصحابة، كانوا يرفعون عن أنفسهم الجهل، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الأعراض لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن الأعراض أهل بدو، عندهم شوية خشونة، ليس كأهل الحضر، فيأتون ومباشرة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون ويجلسون ويستمعون إلى أسئلة هؤلاء ليتفقهون في الدين. فقالت أسماء رضي الله عنها: جاءت امرأة، يعني مبهمة غير معروفة، امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أصاب الحيض دم الحيض ثوبنا فما العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه أو تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا دليل على إزالة النجاسة من الثوب. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية أخرى فأتبعه بوله ولم يغسله كما روى ذلك البخاري ومسلم. ما يتعلق بالبقعة المكان، حديث أبي هريرة والحديث معروف، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال قام أعرابي، جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فربط رحيلته وذهب إلى ركن مكان المسجد فبال، وهكذا شأن الأعراب كما قلت لكم، فبال في ناحية من نواحي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس، يعني الصحابة رضي الله عنهم استعجبوا واستغربوا من هذا الأمر فزجروه، فزجره الناس أو فزجه الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحرقوا، وفي رواية وأهرقوا على بوله سجلا من ماء، يعني دلو من ماء أو ذنوبا من ماء كما روى ذلك البخاري ومسلم. Donc, comment peut-on enlever, donc on va entamer inchallah la cinquième condition concernant les conditions qui valident nos prières. La cinquième condition, c'est le fait de se débarrasser des impuretés en général. Donc il est du devoir du musulman de se débarrasser de toute souillure ou impureté. Et ces impuretés doivent être débarrassées de trois choses. Du corps, de son corps, de ses vêtements, de ses habits, et de l'endroit où ce prieur doit prier. Concernant le corps, si vous vous souvenez bien, la dernière fois qu'on s'est vu, on en a parlé quand on a entamé la discussion sur les conditions des ablutions, sur les piliers des ablutions, c'est-à-dire les obligations, et ce qui invalide les ablutions. On a parlé de tout ça. Et on a dénombré certains nombres d'impuretés. On a parlé des urines, des excréments, du sang, des menstrues, du liquide spermatique, du liquide prostatique, etc. Tout ça, c'est des impuretés dont le musulman doit s'en débarrasser en les lavant. Et comment s'en débarrasser? On a étudié ça la dernière fois. Concernant l'habit, donc le musulman doit se débarrasser des impuretés qui sont sur ses habits, ses vêtements. La preuve de cela, donc on a cité deux hadiths tout à l'heure qui sont dans les deux authentiques, le Bukhari et le Muslim. Le premier hadith, c'est hadith de Asma, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anha, qui a dit qu'une femme inconnue, comme ça une femme, est venue interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je disais tout à l'heure, et c'était le propre des compagnons, des femmes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles n'hésitaient pas à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha, qui dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar, les femmes de Médine, leur pudeur ne les a pas empêchés de venir interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses pudiques. C'est des choses qui concernent la femme. Ça ne les dérangeait pas. Au contraire. Et comment voulez-vous, barakallahu fikum, apprendre votre religion si vous interrogez pas Ahl-Ilm? Si chacun de vous ou de nous reste dans son ignorance, Comment voulez-vous qu'ils progressent? Comment voulez-vous qu'ils connaissent les règles qui régissent sa religion? Donc les sahabiyades, qu'Allah leur fasse miséricorde, comme le dit Aïcha, leur pudeur ne leur a pas empêché d'interroger, de venir interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette femme qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la version de Asma, elle lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on fait si le son des monstrues touche nos habits? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré comment faire. Il lui a dit, au départ, tahutuhu, donc elle l'enlève, thumma taqrisuhu, elle le pince, avec de l'eau bien sûr, thumma tanbahuhu, elle prie, donc elle le lave et puis elle prie avec. Deuxième hadith, hadith Aisha radiyallahu anha, qui a dit qu'en apportant un bébé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce bébé, il a uriné sur les habits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau, il a fait suivre l'eau, ses urines, au sallallahu alayhi wa sallam. Mais al-ma'loum, maintenant, al-ba'ulu najasa. Et par la suite, les savants se sont étalés pour différencier ba'ul as-sabi wa ba'ul al-jariya. Donc c'est pas notre sujet. Donc c'est une preuve que le musulman doit se débarrasser de toute impureté qui peut toucher son habit. Troisième cas où le musulman, celui qui prie, doit faire attention à la propreté, c'est de l'endroit où il va prier. On apporta un dalil pour cela, c'est le hadith connu de tout le monde, c'est la personne qui est venue, le bédouin qui est entré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attaché sa monture dans un coin, et puis il a choisi un autre coin, il a uriné. Et c'est bon, c'est le comportement des bédouins de l'époque. Donc il faisait cela, et il croyait qu'on fait ça partout. Les sahaba, radiyallahu anhum, quand ils ont vu ça, ça ne leur a pas plu bien sûr, donc ils ont été faire des remontrances à ce bédouin. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a calmés, et puis il a fait approcher cette personne. C'est comme ça qu'on devrait être. Parce qu'il l'a fait jahlan. Billahi alaykum, il y a quelqu'un de sensé qui va rentrer dans une... Bon, ça à savoir que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mosquées n'étaient pas comme cela. Mais quand on veut faire un nasiha, quand on veut enseigner à quelqu'un, il faut le faire avec douceur. Il peut même te faire le reproche, la personne, il va dire, mais akhi barakallahu fik, mais pourquoi tu n'es pas venu me faire un nasiha? Ala nasahtani. Est-ce que tu es venu m'apprendre comme as-sahabi radiyallahu anhu, alladhi salla Rafi' ibn Khidaj radiyallahu anhu, sahabi, subhanallah, sahabi qui ne savait pas faire la prière. Vous vous rendez compte, sahabi? Hadith al-Musi'i salatu, ma'aruf. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Cette personne, le sahabi, il a dit, par celui qui t'a envoyé par le message de la vérité, je ne connais que cela. Trois fois de suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, retourne-y, refais ta prière, parce que tu n'as pas prié. Qu'est-ce qu'il lui a dit? وَالَّذِي بَعَدَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذِي. Je ne connais que cette prière-là. فَعَلِّمْنِي. Sahabi, il dit pour ça, فَعَلِّمْنِي. Et nous, Allah al-Musta'an, on croit tout savoir. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on ne connaît rien. Et le pire, c'est qu'on ne connaît rien, mais on n'apprend pas. On ne peut pas apprendre. Donc on revient à notre sujet. Donc cette personne, il est arrivé, le Nabi sallam, il l'a fait approcher, il lui a dit, ces maisons-là, les masajid, n'ont pas été faites pour cela. Hein? Les masajid n'ont pas été faites pour cela, pour que tu urines dessus. Et cette personne, il était tellement était fasciné par le comportement du Prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez le hadith ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit cette personne au Prophète? Il était tellement content de ce comportement, il a dit Allahumma arhamni, warham Muhammad, wa la tarham ma'ana ahada. Parce que le Nabi sallam, il était doux avec lui, il était clément avec lui, il était tellement content, il lui a dit, oh, oh qu'Allah, fasse-moi miséricorde. Ainsi, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait miséricorde à personne d'autre. Faqad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est incommensurable. Donc, il ne faut pas la réduire à cela. Faqad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il aura dit, il ne faut pas le secouer, prenez un récipient ou un seau d'eau et mettez-le dessus et on n'en parle plus. C'est une preuve qu'il faut faire attention à la propreté du lieu de prière. Maintenant, il y a des cas concernant cette impureté. C'est quelque chose de très important que beaucoup de gens ne connaissent pas. وهذه النجاسة وقبل ذلك فيه مسائل حكم من صلى بالنجاسة وهو عالم بها حكم من صلى بنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها هذا فصلاته باطلة صلاته باطلة لأن اشتراط الطهارة في البدن والثوب والبقعة شرط لصحة الصلاة وهو معروف وهذا علم قلنا صلى بالنجاسة وهو عالم بها مع قدرته على إزالتها ولكن صلى بهذه النجاسة فهذا صلاته باطلة لأنه إيش أخل بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو إزالة هذه النجاسة طهارة سواء البدن أو الثوب أو البخار donc on va étudier inshallah quelques cas concernant cette impureté on vient de citer un cas d'une personne qu'il a su qu'il y avait une impureté, que ce soit dans le lieu, ou sur lui-même, ou sur son corps. Et il a la possibilité de s'en débarrasser. Donc il y a deux choses. Il a su qu'il y avait une impureté, et il pouvait s'en débarrasser, mais rien n'empêche, il a fait la prière comme cela. Donc celui-là, sa prière n'est pas valide. Parce que il manque une condition parmi les autres conditions, qui est la propreté, pour accomplir la prière. هذه مسألة. Donc il a su, il a pu, mais il a fait la prière quand même. Donc celui-là, on lui dit, ta prière n'est pas valide, mon frère. Deuxième cas, مسألة ثانية. من صلى ورأى نجاسة بعد الانتهاء من الصلاة. Donc le deuxième cas, c'est celui qui s'est aperçu d'une impureté après avoir fini sa prière. Donc ils se sont rendus compte après qu'il ait achevé sa prière. هذا المسألة فيها خمس صور. Donc on a deux grands cas. pour résumer. Une personne qui a su et qui a pu, mais il a fait la prière quand même, celui-là, on va lui dire, ta prière n'est pas valide. Maintenant, il y a un deuxième cas. Une personne qui s'est aperçue qu'il avait une impureté, quel que soit, hein, sur son habit, sur son corps ou sur le lieu, mais après avoir fini sa prière. Ce cas-là, il se présente sur cinq petits cas, ou si vous voulez, cinq catégories. المسألة الأولى الصورة الأولى أن يرى النجاسة بعد الصلاة لكنه لم يعلم متى أصابته النجاسة هل هي قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فهذا صلاته صحيحة لماذا لأن الأصل عدم النجاسة الأصل عدم النجاسة ووجود النجاسة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة مشكوك مشكوك فلا يترك اليقين بالشك من درس أصول الفقه يعرف الأمور هذه عندنا قاعدة أصولية في الفقه أش تقول لا إن اليقين لا يزول بالشك إن اليقين لا يزول بالشك premier cas قلنا cette personne ou celui qui a prié se rend compte de cette impureté après avoir fini la prière mais par contre il ne savait pas, ou il ne se souvenait pas, à quel moment il fut atteint par cette impureté. Vous suivez les frères ? Oui. Est-ce que cette impureté est survenue avant la prière, pendant la prière, ou après la prière ? Donc celui-là, on va lui dire, ta prière est valide. Limada. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, non, ta prière elle est valide. Oh, ta prière elle n'est pas valide. Non, mais il faut me dire pourquoi. Il faut argumenter. On va lui dire ta prière elle est valide. Pourquoi ? لأن الأصل عدم النجاسة. Au départ, on prend la chose, c'est comme il n'y avait pas d'impureté. Est-ce que cette impureté est survenue avant, pendant ou après la prière ? Donc là, il y a un doute. On ne sait pas à quel moment cette impureté a existé. Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est pendant ? Ou est-ce que c'est après ? Nous avons une règle parmi les fondements de la jurisprudence musulmane qui dit al-yaqin, la certitude ne disparaît pas, on peut traduire comme ça hein? La tazoul. Comment on peut traduire cela ne disparaît pas n'abolit pas tu crois là j'ai un trou de mémoire ne disparaît pas hein Anyway, c'est-à-dire que quand on est certain d'une chose, on n'enlève pas cette certitude, on ne délaisse pas cette certitude par quelque chose de douteux. Et ça, c'est une règle hein, dans la jurisprudence musulmane, au sur le fiqh, qui est très très importante. Hatta fi salah, مثلاً في مسائل سجود السهو. Vous savez, Inch'Allah. On ne délaisse jamais quelque chose dont on est certain pour quelque chose dont on a un doute. Jamais. On bâtit toujours sur l'yaqin, sur quelque chose de sûr. Et là, il y a un doute. On ne sait pas que cette impureté, à quel moment elle est survenue, avant, pendant ou après la prière. C'est pour cela qu'on va dire à cette personne, non, du moment qu'il y a un doute, du moment que tu ne sais pas à quel moment, ta prière est valide. Deuxième chose. أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة ولكن جهلها ولكن جهلها طيب مثال رجل حمل صبيا رجل حمل صبيا قبل أن يصلي ثم صلى هذا الرجل صلى فلما انتهى من صلاته رأى أثر النجاسة على ثوبه فهذا قطعا لم يحمل الصبي بعد الصلاة ولا أثناء الصلاة بل حمله قبل الصلاة فهي قبل الصلاة ولكن جهلها فهذا كذلك صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة على الصحيح من قول أهل العلم. Donc on a un deuxième cas d'une personne, il s'est rendu compte d'une impureté alors أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة ولكن جهلها. Donc il est sûr que cette impureté est survenu avant d'entamer la prière, mais jahilha, c'est-à-dire il ne s'est pas rendu compte au fait. Il ne savait pas qu'il avait une impureté sur lui. Il s'en est rendu compte que à la fin de la prière. On a cité un exemple. Une personne, avant d'entamer la prière, il a pris un enfant. Il a pris un enfant dans sa main. Et puis par la suite, il a posé, il a entamé sa prière, il a fait sa prière. Et une fois qu'il a fini sa prière, il s'est rendu compte qu'il y avait une impureté sur son habit, par exemple. Donc celui-là, il n'a pas porté cet enfant pendant la prière, ou à la fin de la prière. Il l'a pris avant la prière. Mais il ne s'est pas rendu compte que cet enfant l'a sali. C'est fou. Hassan, barakallahu fik. Celui-là, on va lui dire, ta prière est valide. Et il n'a pas à refaire sa prière. Troisième cas. أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة. Donc celui-là, il sait, il se rend compte qu'il avait une impureté dès le départ. ولكنه نسي إلى أبليه نسي أن يغسلها حتى فرغ من الصلاة. Donc vous voyez, c'est des cas bien précis. Quelqu'un qui s'est rendu compte dès le départ, avant de commencer la prière, il s'est rendu compte qu'il y avait une impureté sur lui, sur son habit par exemple. Il a oublié l'habit de laver cette impureté. Salat au riche. صحيحة الصورة الرابعة إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسيها ثم تذكرها في أثناء الصلاة ça se précise encore plus تذكرها أثناء الصلاة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة فهذا لا exactement فهذا عليه أن يزيلها في إذا قادر عليها. قلنا إذا قادر عليها. وتصح الصلاة إذا نزع هذه النجاسة. دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم رضي الله عنهم. وهكذا شأن الصحابة، سمعنا وأطعنا سيون الشان. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم والبيهقي والطحاوي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. الحديث من باب الصحة صحيح. ويستنبط من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية الصلاة في النعال، يجوز الصلاة في النعال بشرط أن يكون هذا النعل طاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح، فليمسح على الأرض وليصلي فيهما. وإن لم يزلها سريعا هذه النجاسة لم تصح صلاته، لأنه صلى وهو حامل للنجاسة مع علمه بذلك. أن أترك une personne s'est aperçue d'une impureté avant de commencer la prière, mais il l'a oublié. Donc il s'est aperçu qu'il avait une impureté, mais il a oublié de la laver ou de s'en débarrasser. Et il a fait la prière. Et quand il a entamé sa prière, il s'est rendu compte: ah, il y a une impureté. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit s'en débarrasser le plus rapidement possible, s'il peut. Et s'il s'en débarrasse, sa prière reste valide. Parce que l'asal, c'est s'en débarrasser. Et là, il l'a fait. On a cité l'exemple, la preuve de cela, hadith Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui dit que une fois le prophète alayhi salatu wasalam dirigeait la prière, et à un moment donné, il a enlevé ses sandales. D'où la preuve que le fait de prier avec ses sandales est permis. Et le hadith, il est authentique. Il a été rapporté par l'Ahmed, Abu Dawud, والدارمي والحاكم والبيهقي والطحاوي الألباني رحمه الله authentifié dans سنن أبي داود. Donc sur l'authenticité du hadith, il est authentique. Donc on en tire de ce hadith la permissivité où il est permis de prier dans ses sandales et ses chaussures, à condition, ça va venir inshallah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses sandales et les a mis à gauche. On ne met pas ses chaussures à droite ou devant soi. On les met à gauche. Et les sahaba, radiyallahu anhum, quand ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé ses sandales il les a mis de côté, ils ont fait pareil. Ah, Kadaj Amu Sahaba, ils sont comme ça, Sahaba. Samiana wa ata'na, sur le champ. Il n'y a pas, oui, je vais réfléchir, oui, je vais voir. Oh non, je vais mettre ça sur, hein, dans mon cerveau, je vais voir ce que c'est. Non, pas du tout. Tiba. Donc ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire, ils ont fait. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, les compagnons l'ont vu sortir des toilettes en souriant. Ils lui ont dit, mais écoute, il m'a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Vous voyez comment ils étaient minutieux le fait de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sahaba, ils ont vu le Prophète sallam enlever ses sandales, ils ont fait de même. Et une fois la prière achevée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, mais pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous avez enlevé vos sandales? Ils ont rétorqué, ils ont dit, on t'a vu faire, on a fait. Il lui a dit, moi, Jibril alayhi salam, est venu me prévenir que dans mes sandales, il y avait une impureté. C'est pour ça que je les ai enlevées. Donc, on en tire de cela. Après, il a dit à Jérusalem, quand celui qui veut faire sa prière, quand il vient à la mosquée faire sa prière, qu'il vérifie s'il n'y a pas d'impureté dans ses sandales. Maintenant, évidemment, le bon sens veut qu'on n'entre pas avec ses chaussures dans la mosquée. Alhamdulillah, on a des tapis, mais ce n'était pas le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est le fait qu'une fois qu'on s'est rendu compte de cette impureté, même pendant le salat, il faut s'en débarrasser au plus vite si on peut le faire, bien sûr. Le faire rapidement. Et on continue sa prière et la prière reste valide. La preuve de cela, c'est le hadith. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte par l'intermédiaire de Jibril alayhi sallam que dans ses sandales il y avait de l'impureté. Donc il les a enlevés, il les a mis à sa bouche, il a continué sa prière. Donc celui qui se rend compte d'une impureté pendant sa prière, et on a cité le cas d'une personne qui savait qu'il y avait une impureté, mais il l'a oublié. Ils s'en rendu compte pendant la prière. Celui-là qu'il faut qu'il s'en débarrasse le plus vite possible. S'il a la possibilité de le faire, bien sûr. Et il continue sa prière et sa prière reste valide. Maintenant, s'il ne l'enlève pas rapidement, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas valide. Il faut qu'ils s'en débarrassent. Maintenant, le dernier cas, As-Sour al-Khamisa, an yajhal hukm hadihi al-najasa, wa annaha min al-najasat. Ou yajhal anna salata bin-najasat tubtil al-salah, fahada salatuhu sahiha. Une personne qui ne connaît pas les règles concernant la validité de la prière. Il ne sait pas que ça c'est une impureté. Il ne savait pas que cette chose-là est une impureté. Ou il ne sait pas le statut concernant cette chose. Est-ce que c'est une impureté ou pas? Ou il ignore que il n'est pas permis de faire la prière en portant ses impuretés. Celui-là, sa prière est valide aussi, parce que il ignore. Maintenant, on va ouvrir deux parenthèses. Maintenant, il ne faut pas rester ignorant toute sa vie, les frères. Hein? Il ne faut pas rester ignorant toute sa vie. D'où le but de ces assemblées. Il faut apprendre sa religion. Et on n'apprend pas sa religion en restant à la maison. Il faut venir à la mosquée, écouter les frères, écouter les savants, écouter le du'ad, assister au cours. Et soyez-en sûrs, les frères. Et ça, je le dis avant l'arrivée avec Annie, avec apaisement et certitude. Vous ne sortirez jamais de la mosquée quand il y a une assemblée comme la nôtre, l'Illah al-Hamd. Vous ne sortirez jamais d'une assemblée en n'ayant pas appris quelque chose. Alors là, c'est pas la peine de me dire. Wallahi walaw, haja basita jiddan. Tu peux apprendre un verset, tu peux apprendre un hadith, tu peux apprendre un hukm, une ahkam al-fiqhiyya, mathalan. Mais ne me dites pas que vous allez sortir comme ça en n'ayant rien appris. C'est pas vrai ça. On apprend tout le temps. Et surtout, je m'adresse aux personnes âgées. De dire, ah, mais c'est fini, on est âgé, c'est fini. Alors, à notre avis, abadan, c'est pas vrai. كان من الصحابة رضي الله عنهم من كان مسنا. Il y avait beaucoup de compagnons رضي الله عنهم أسلموا et puis ils étaient très âgés. Ça les a empêchés d'apprendre à Baden. Au contraire. Donc il ne faut pas commettre cette erreur-là. On apprend tout le temps. Donc le charte al-khamis, on a izalat al-najasa, on est pour résumer, min thalathati ashiya, min al-badani wa al-thawbi wa al-buqa. Donc, cinquième condition pour la validité de la prière, c'est le fait de se débarrasser des impuretés, des souillures, de trois choses, de son corps, de ses habits et de l'endroit où on prie. الشرط السادس. Il y a des questions pour الشرط الخامس هذا ? Vous avez des questions pour cette impureté là ? Ou ça y est, on a tout compris ? Oui, mon frère. Naam. Oui. Naam. Naam. Oui.
Le fait d'aller au palais pour, par exemple, les enlever, si j'ai le cours qui fait 4 rakas, j'ai fait 2 rakas, est-ce que on refait les deux avant ou je continue?
Ah non, non, tu refais la prière, Yahya.
Je refais
Alors tu refais la prière, bien sûr. Tu refais la prière. Maintenant, il y a un cas. Par exemple, une personne qui s'est rendue compte qu'il y a une légère impureté sur son pantalon, par exemple. On lave-le, Yahya, on lave-le. Évidemment. C'est un kamis dessus, bien sûr. Mais faites attention, c'est ces impuretés qui invalident la prière. Hein. Donc là, on a cité des cas bien précis. D'une personne, comme vient de citer le frère, qui s'est rendu compte pendant sa prière. Et il a la possibilité de s'en débarrasser. Il faut qu'il le fasse le plus rapidement possible. Maintenant, s'il ne peut pas, celui-là, il doit arrêter la prière, bien sûr, subhanallah. Ben oui. On ne peut pas prier en sachant qu'on a une impureté sur soi. الشرط السادس. هذا والله شرط مهم جدا نغفل عليه. هو ستر العورة. ستر العورة. Le fait de cacher ses parties, il y en a certains qui l'ont traduit partie honteuse, mais bon, il n'y a rien d'honteux. Se voiler ses parties intimes, c'est plus correct. Satru al-awra. Ajma'a ahlul ilm. Ajma'a ahlul ilm. Ala fasadi salati man salla uryanan wa huwa yaqdir. مقيد. أعيد، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. يقدر على إيش؟ يقدر على ستر عورته. وهذا الكلام مهم جدا، قيدوه بالقدرة. سؤال، وأنا أتذكر أني سألتكم إياه مرة، رجل حضر وقت الصلاة وهو مسجون مقيد على نجاسة، هل يصلي أم لا؟ Je répète, notre pour les francophones. Donc on a bien dit, là on a entamé la sixième condition. Et la sixième condition, c'est le fait de cacher ses parties intimes. On cite un cas, parce que qu'est-ce qu'ils disent ? Al-ilm, ils disent que Al-jama'a ahl al-ilm. Il y a unanimité chez les savants de dire que celui qui prie nu, en ayant la capacité ou la possibilité de se vêtir ou de cacher sa nudité, sa prière, est caduque, elle n'est pas valable. C'est pour ça qu'ils ont qayyad al-amr bil qudra qal wa huwa yaqdir. Maintenant, celui qui ne peut pas, qui n'a pas cette capacité-là. On cite un exemple concret. Quelqu'un qui est emprisonné. Il est en prison. Quelqu'un qu'on a dénudé. On va enlever tous ses vêtements. Quelqu'un qu'on a enchaîné. Quelqu'un qui est dans des impuretés majeures. Wa hadara waqtu salah. كيف يفعل هذا؟ قلنا شوف، مسجون مقيد اللي أطشي با دابليسيون، يعني إلي دون إتا عريان، حضر وقت الصلاة، هل يصلي هذا أم لا؟ يصلي؟ علاش؟ ها؟ ب؟ بنية ايش؟ لاتونسيون دو كوا؟ توتي النية 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 ها؟ مي سافو ديار كوا اكزاكتومون النية؟ ها؟ مي جي با كومبري لو سونس تي دي افيك النية، النية دو كوا؟ Il n'est pas libre, exact. Ah, c'est sûr, il est emprisonné, voilà, il n'est pas libre. À tout à l'heure. Hassan, non. Hassan, n'est-ce pas le cas de la vie. Ma'adoul. Mon salat, il faut c'est pas parce qu'il est enchaîné, il est dévêtu, il est mal propre. C'est-à-dire dans le sens de la propreté de Tahara, que Tasqut alayhi salat, d'où l'importance de la prière. On prie dans n'importe quel état. Évidemment, bien sûr, dans des cas précis comme cela. وَحَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ تَخْتَلِفْ عَلَى عَوْرَةِ الْمَرَأَةِ bien sûr. وَحَدُّ أو حَدُّ عورة الرجل من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة والآمة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها على أصح قول أهل العلم والدليل قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة والمطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس كما جاء في الآية. وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة. لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أخرجه الترمذي وغيره من معاوية عن معاوية بن حيدر، وقال حديث حسن وحسنه الألباني في رواية الغليل. وحد عورة الرجل كما قلنا ما فوق الركبة ودون السرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. رواه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن. Donc les limites de la aura, les parties intimes de l'homme, c'est entre son nombril et son genou. Les savants, ils ont divergé là-dessus. Est-ce que le nombril et les genoux font partie de la aura ou pas? Donc il y a divergence entre les savants pour cela. Et l'avis le plus plausible, Allah Ta'ala, ça fait partie de la aura. Donc de la surra jusqu'au genou. Ça, c'est les limites des parties que l'homme doit cacher pendant sa prière. Ça, c'est halat al-dhayq. Maintenant, قال النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith authentique: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه وفي رواية عاتقيه شيء. Comment on rassemble les deux hadiths? Maintenant, comme disent les savants, celui qui est dans un état, c'est-à-dire qu'il est amoindri, il est dans un état de besoin, ce qui est demandé à cacher, c'est cette partie-là, c'est ces limites-là, pour l'homme bien sûr, c'est le fait de cacher ces parties qu'on a délimitées, du nombril jusqu'au genou. Maintenant, celui qui est dans l'aisance, il doit mettre quelque chose sur ses épaules. Dans un hadith aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui a un habit ample, qu'il le mette sur ses épaules. Et celui qui n'en a pas, qui sont contentes, tazerbihi. On pond, on appelle ça, c'est un pont ou une plombe. Les arbres. Hein? Une plombe. On pond. Donc il y a deux cas. Il y a un cas où on est dans l'aisance, alhamdulillah. Alors celui-là, on va lui dire, mets un habit complet. Yani, comme il a été rapporté dans le hadith, que personne d'entre vous n'entame une prière s'il n'a rien sur ses épaules. Maintenant, c'est celui qui est dans l'aisance. Maintenant, celui qui est dans un état où il n'a que cela, qui sont contentes de cacher ses parties. Ils sentent que c'est des parties intimes de l'homme à voiler entre son nombril et ses genoux. Concernant la femme, toute la femme est une aura, excepté son visage et ses mains pendant la prière. Les savants, ils ont été plus loin. Si elle est en présence d'hommes étrangers, qu'elle se voile, même en prière. Là, on parle, si elle est chez elle, ou dans un endroit où il n'y a pas présence d'étrangers, quand elle fait sa prière, qu'elle dévoile son visage et ses mains. Mais en présence d'étrangers, non. Donc, inshallah, hadithana, il y a un شروط هذا الثوب الذي يجب على المرأة والرجل أن يستر به عورته. والثوب كل ما يلبس على البدن سواء كان مخيطا أم غير مخيط، فالإزار والرداء والقميص والسروال إلى غير ذلك من الثياب، لازم تتوفر فيه بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون مباحا، أي ليس بمحرم، والمحرم إما لعينه كالحرير على الرجال، الحرير حرام على الرجال إلا في حالات خاصة، أو لوصفه كثوب الشهرة، أو لكسبه كالمسروق. الشرط الثاني أن يكون طاهرا غير ناجس. الشرط الثالث أن لا يصف البشرة من بياض أو سواد، فإن وصفها فلا يجزئ. الشرط الرابع أن لا يكون لافتا للنظر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصات هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنجابانية أبي جهم فإنها أنهتني عن صلاتي. Donc parmi les caractéristiques, on va finir avec ça inchallah. Parmi les caractéristiques de cet habit, on a dit que l'habit dont on parle ici, c'est tout ce qui est cousu ou pas cousu, concernant ces fameux rompons, ces fameuses plombes, les camises, les pantalons, tout ça c'est les habits. Donc il y a des caractéristiques qui sont très, très importantes à connaître. Que cet habit soit quelque chose de licite, à savoir, il n'est pas illicite bien sûr, comme le fait de porter la soie pour les hommes, sauf pour des cas bien précis. Il n'est pas permis à l'homme de s'habiller avec de la soie. Ou le fait de s'habiller avec un habit ostentatoire qui attire l'attention. C'est-à-dire un exemple, de s'habiller avec un habit qui n'est pas un habit connu dans la région. Ou les kasbihi, le fait d'avoir un habit qui est volé. Maintenant, question, est-ce que si on prie dans un habit volé, est-ce que la prière est valide ou pas? هل إذا اغتصبت ثوبا وصليت فيه هل صلاتك صحيحة أم لا؟ صحيحة، ولكن مع الإثم الذي يصلي في أرض مغصوبة مثلا. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، dans la deuxième condition il faut que cet habit soit propre, il soit divin, il faut qu'il soit débarrassé de toute impureté et toute souillure. Troisième condition, il ne faut pas qu'il fasse apparaître la peau, hein, qu'il ne soit pas léger, transparent. Au château Tharabia, il ne faut pas qu'il attire l'intention. Comme le hadith qu'on a cité tout à l'heure, une fois le prophète, il a fait la prière sur une étoffe où il y avait des figurines ou autres, il a demandé qu'on enlève. Donc, le kalam fait Safa al-Awra et Atoul, Inch'Allah. Donc, on rajil hada ila ayyamin ukhar. Et le hadith baqiya, Inch'Allah. On s'en Allah subhanahu wa ta'ala, an ij'alana min ladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah, wa ulaika hum ulul awli al-albab. On s'en Allah subhanahu wa ta'ala, an yarzuqna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم